pronostics, des prophéties de ceux qui nous disaient que notre belle campagne de l'élection présidentielle et des élections législatives ne serait qu'un peu de paille. Non, cette belle campagne, elle a mis des jalons. Cette belle campagne de l'élection présidentielle et des élections législatives, elle a posé des jalons. Elle a modifié le climat du débat politique en France et elle l'a modifié pour longtemps, au point d'avoir pu entendre, il y a tout juste un an, mes amis, un candidat prononcer ses fortes paroles. Je vous les redis parce que on ne les répétera jamais assez. Mon adversaire n'a pas de fond, pas de visage, pas de parti. Il ne présentera jamais sa candidature. Il ne sera jamais élu. Et pourtant, il gouverne. Cet adversaire, c'est le monde de la finance. Seulement voilà, après avoir prononcé ses fortes paroles, François Hollande a ensuite oublié qu'il avait dans ce discours du Bourget précisément décrit l'impitoyable lutte de classe qu'une poignée d'actionnaires et de banquiers livrent à la majorité de ce pays composé d'ouvriers, d'employés, de salariés qui souffrent tous de la même course au profit. N'en déplaise à M. Cahuzac. Madame Parisot n'ignore rien de la lutte des classes. Lorsque ceux auxquels les Français ont offert tous les moyens de gouverner se sont réfugiés dans la chimère d'un compromis impossible avec le grand patronat, elle, Madame Parisot, s'employait à regrouper son camp. Elle s'employait à rassembler ce parti du capital qui ne se donne effectivement pas tout, mais qui n'a en rien renoncé à gouverner le pays, car les Français en ont décidé autrement par leur suffrage en mai et juin 2012. Et voyez-vous, mes amis, c'est une vieille leçon, une très vieille leçon qui s'est une fois de plus confirmée. Ce sont ceux qui osent, ceux qui ne craignent pas de défendre leur couleur, ceux qui n'hésitent pas à prendre l'initiative, ce sont eux qui avancent. Et la présidente du MEDEF, reconnaissons-le, avait tout dit lorsqu'elle avait exigé, je la cite, une politique pro-business, lorsqu'elle avait exigé un choc de compétitivité, lorsqu'elle avait exigé la baisse drastique de la dépense publique, lorsqu'elle avait exigé le transfert à la charte de la collectivité d'une large part des cotisations sociales du patronat, lorsqu'elle avait exigé la flexibilité absolue du travail. Eh bien, tout ça, mes amis, elle est en passe de l'obtenir. Elle est en passe de l'obtenir avec la ratification du traité budgétaire européen, cycle élaboré par Merkel et Sarkozy, sans qu'une ligne n'y ait été modifiée. Elle est en passe de l'obtenir avec ce sinistre pacte de compétitivité. Elle est en passe de l'obtenir avec l'annonce de 60 milliards de coûts clairs dans les dépenses publiques jusqu'à l'échelon des collectivités territoriales sur les 5 ans qui viennent. Elle est en passe de l'obtenir avec le recul devant les prétentions des actionnaires des grands groupes à faire de l'emploi la variable d'ajustement de leur quête sans fin au rendement financier. Elle est en passe de l'obtenir avec l'accord d'aujourd'hui qui apparaît, qui permet aux MEDEF d'obtenir plus de déréglementation du droit du travail, encore plus de flexibilité et de précarité pour les travailleurs, et plus de liberté licenciée pour les patrons. Et malheureusement, ce n'est pas fini. Voilà maintenant que l'on nous annonce que que le MEDEF entend décrocher le montant des pensions de retraite du niveau de l'inflation. Voilà que la Cour des comptes, par la voix de son premier président, un ancien député socialiste, suggérait de remettre en cause l'indemnisation du chômage. À ce rythme, mes amis, l'attente d'une majorité du pays est menacée de voir une immense déception populaire s'installer et faire le jeu d'une droite qui se trouve dorénavant sous l'influence idéologique des amis de Madame Le Pen. Et cet avenir-là, nous n'en voulons pas. Cet avenir-là, nous n'en voulons pas. Nous refusons que la gauche et le peuple de ce pays subissent le sort de nos sœurs et de nos frères de Grèce, d'Espagne, du Portugal ou d'Italie. Nous avons, avec la campagne que nous lançons ce soir solennellement, nous avons un pour unique objectif de sauver la gauche, de sauver la gauche du champ de ruines qu'elle deviendrait si rien ne vient arrêter la course à la ville dans laquelle le président de la République et son gouvernement sont en train de l'entraîner. Je parle à dessein de champs de mine et de course à l'abîme, car la politique mise en œuvre depuis maintenant plus de 6 mois est tout à la fois une aberration économique, une lourde erreur sociale, une faute politique majeure. Aberration économique, car l'austérité engendre la récession qui contracte même l'activité, tout en augmentant les déficits, qui entraîne l'essor du chômage perdu et l'investissement, pour au final appeler encore plus d'austérité. Le mécanisme est absolument impitoyable. Et on le verra dans quelques mois à peine, lorsque le gouvernement devra bien admettre que les 3% de déficit public qu'il se fixe cette année sont inatteignables. Alors, l'heure de vérité sonnera, il faudra choisir entre l'austérité accrue avec les résultats que l'on devine déjà, ou un changement de politique, et nous sommes là pour le dire, et pour le dire avec force. Une erreur sociale, car en précarisant encore et toujours le monde du travail, on va inévitablement générer des réactions de désespoir parmi les classes populaires et une faute politique. Une faute politique parce qu'a été loupée la première occasion de faire bifurquer le cours des choses pour ouvrir, à partir de la 5e puissance de la planète, une perspective aux résistances qui s'expriment avec une force jamais connue encore depuis des années à l'échelle de toute l'Europe. Voilà pourquoi le temps de la contre-offensive est venu. Le message que nous voulons délivrer, il est là. Cette contre-offensive est non seulement nécessaire, mais elle est possible. Elle est possible parce que nous ne sommes pas seuls. Celles et ceux qui se sont exprimés devant vous ce soir, avant nous, avant les représentants du Front de gauche, ceux-là sont la voix de ces milliers et de ces milliers de salariés qui partout défendent bien sûr leur emploi réussi. L'intérêt inter-industriel de ce pays, c'est-à-dire quelque part l'intérêt général. La contre-offensive est possible parce qu'à gauche, y compris dans les rangs de l'actuelle majorité gouvernementale, beaucoup de voix expriment désormais les mêmes préoccupations que nous. On l'a vu à plusieurs reprises depuis la ratification du traité Mercosy. Elle est possible, la contre-offensive, parce que les Français qui ont voté pour tourner la page du sarkozysme ne se sont nullement résignés à voir leur Satan piétiner. Elle est possible parce que des propositions existent pour une autre politique. Puisque ce soir, la bataille du changement se confond avec la bataille pour l'emploi et le renouveau industriel du pays, mettons donc sur la table ces urgences à partir desquelles nous pouvons reconstruire un grand élan populaire, reconstruire ce front populaire du 21e siècle qui permettra de repartir sur le changement du progrès social et non d'une régression calamiteuse. l'écologie et de l'économie, avec le souci de jeter les fondations d'un nouveau modèle de développement. Rien de tout cela ne sera possible si l'on ne récupère pas la maîtrise du crédit. Et pour récupérer la maîtrise du crédit, il faut aller bien au-delà d'une banque publique d'investissement à la surface trop étriquée. Il faut un fonds public bancaire qui regroupe les grands établissements financiers et qui réoriente le fonds. Le crédit vers l'emploi, le renouveau industriel, la protection écologique, les services publics. Il faut que la puissance publique reprenne enfin la main. Et cela veut dire, oui Jean-Marc Ayrault, que la nationalisation des groupes victimes de l'impôt ou gains de financiers sans scrupules n'est pas un archaïsme, mais qu'elle est la modernité quand l'intérêt général est en jeu. Que la puissance publique reprenne la main signifie aussi, Monsieur Sapin, que plutôt que de ratifier cet accord à la sauvette qui a été signé il y a maintenant 2 semaines, on donne plus qu'à la flexibilité, à la sécurité des travailleurs, probablement la majorité du mouvement syndical de ce pays. La sécurité sociale professionnelle, c'est la grande avancée sociale du 21e siècle, dans la foulée de des congés payés de 36, du programme du Conseil national de la résistance, de la retraite à 60 ans et de la réduction du travail. Oui, à la sécurité sociale professionnelle. Il faut enfin mettre en œuvre une redistribution des richesses, parce qu'il n'est pas normal dans un pays comme le nôtre que l'on ne touche pas, pour ne prendre que cet exemple, que l'on ne touche pas aux fameuses niches fiscales qui profitent pour la plupart d'entre elles aux grandes entreprises et dont on estime qu'elles représentent, écoutez bien, de 250 à 260 milliards d'euros, soit 13% du produit intérieur brut. Ce n'est pas normal. Il faut redistribuer les richesses, ne pas faire les poches aux travailleurs, mais faire les poches de ceux qui ont déjà tout et qui veulent toujours plus. Alors, voyez-vous, mes amis, des propositions, nous en avons. Ceux qui viendront derrière moi en développeront d'autres. Des propositions, nous en avons. À partir de ces propositions, nous voulons montrer qu'une autre politique est possible. Nous voulons contribuer à remettre en mouvement la société française. Autrement dit, nous voulons aider à faire renaître l'espoir. Nous voulons travailler avec tous ceux et toutes celles qui sont disponibles, travailler à arracher les victoires de notre camp. Nous voulons agir pour changer la gauche dans son ensemble, pour créer ce faisant une nouvelle majorité et un autre gouvernement menant une toute autre politique. Dans cette bataille, nous voulons rassembler dans l'action, et il n'y a même que nous qui pouvons rassembler, parce que c'est la politique de l'audace qui rassemble, alors que la politique des reculs en permanence désagrège la gauche à faire reculer. Le courage, disait Jaurès, et ce sera mon dernier mot, le courage, disait Jaurès dans une formule que beaucoup d'entre vous, j'en suis sûr, connaissent, le courage, c'est de chercher la vérité et de la dire. Mais il ajoutait une autre phrase qui est beaucoup moins évoquée par ceux qui, de temps à autre, sont amenés à citer Jaurès. Il disait, le courage, c'est de ne pas subir la loi du mensonge triomphant qui passe. C'est bien pourquoi le mot d'ordre de résistance sous lequel nous avons mené notre campagne du printemps 2012, ce mot d'ordre n'est pas une perspective de défense, c'est un message d'appui.
Oh, merci, j'étais impliqué.